Bonsoir, c'est parti. Vous savez, dimanche, le 1er juillet, 80 km/h sur 400 000 km de route à double sens sans terre-plein central. Alors vous le savez, certains élus départementaux vont faire la grève des panneaux, des automobilistes vont râler parce qu'ils vont perdre 5 minutes sur un parcours de 50 km. Le gouvernement, il espère en faire un outil de lutte contre la violence routière. À l'instar du reste, vous le savez, il faut pas boire, il faut pas téléphoner au volant, ça vous connaissez, vous l'appliquez, j'espère. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la vitesse supérieure sur la conception des voitures, sur la modernisation des infrastructures, justement? Et vous allez voir, il y a des petits génies qui ne ménagent pas leur temps. Alors sur les routes, l'innovation doit-elle accélérer? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Non, on va pas revenir sur cette polémique. Bien entendu, il y a d'autres chaînes qui évidemment s'y consacrent largement. On va en parler justement avec Emmanuel Barbe, c'est le délégué interministériel à la sécurité routière. François Roudier, le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Avec nous également Stéphane Penet, le directeur assurance dommages responsabilité à la Fédération française de l'assurance. Georges Tempès, directeur du CEREMA, le centre d'études et d'expérience sur les risques, spécialisé dans les infrastructures de transport, les matériaux. Et puis Abdelkrim Doufen, responsable du programme Transport Autonome dans le laboratoire de recherche IRT Systemix. Je rappelle quelques chiffres, toujours bons à connaître. Malheureusement, le chiffre des accidents sur la route en 2017, 58 600, presque 2% de hausse sur un an. Le nombre de tués sur les routes l'an dernier, 3448. Alors vous savez, bon, il y a la répression, bien sûr, il y a les contrôles, les radars, l'installation d'éthylotests anti-démarrage pour les personnes récidivistes, bien sûr. L'idée de sanctionner plus durement l'usage du téléphone tenu en main. Mais voilà, on parle de répression, il n'y a pas que ça, bien entendu. Quid de l'amélioration des infrastructures? Emmanuel Barbe, nos routes, comment se portent-elles? Comment vont-elles? Est-ce que parfois elles ne sont pas un petit peu dépassées, justement?
C'est une question à laquelle il est difficile à répondre, mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que les infrastructures sont finalement assez peu en cause dans les accidents. Près de 90% des accidents corporels ou mortels sont liés à des fautes de comportement.
Le comportement humain.
Le comportement humain. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des mauvaises routes, et je pense spécialement aux deux roues motorisées, pour lesquelles évidemment le mauvais état des routes est plus difficile à payer.
Mais on verra justement qu'on peut aider justement l'automobiliste, parce que avec toutes sortes de voiries intelligentes, on y reviendra, on a des exemples précis à donner, à raconter justement. Allez-y Emmanuel Barbe.
Après, c'est dans le débat sur le 80, c'est aussi une chose un peu paradoxale, c'est que l'effet d'une belle route n'est pas toujours positif en sécurité routière. En fait, en France, c'est sur les plus belles routes qu'on meurt le plus. Tout simplement parce qu'on y roule plus, chaque véhicule est un risque, on additionne les risques, et deuxièmement parce qu'on y roule plus vite et la vitesse est toujours une circonstance aggravante. Et pour autant, je le répète, je pense qu'il y a beaucoup à attendre des routes plus intelligentes, des routes qui fournissent de l'information, et de ce point de vue-là, je fais partie de ceux qui sont assez positifs sur ce qu'apportera notamment le véhicule autonome.
Tout juste, on va y consacrer une large place, bien sûr. En France, c'est le syndicat des équipements de la route qui expliquait qu'une route sur deux est sans marquage au sol. 30 à 40% des panneaux de signalisation ont dépassé leur durée de vie. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, Georges Tempès, ou le directeur du Centre d'études d'expérimentation sur les risques?
Sur l'état global de la signalisation.
Ouais. Alors, les infrastructures en général.
Déjà, sur la signalisation, il est bon quand même de remarquer que toutes les routes ne nécessitent pas, ou ne permettent d'ailleurs pas d'avoir un marquage au sol de séparation. On a quand même beaucoup de routes qui sont relativement étroites, donc avoir une signalisation complète n'est pas possible. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien de la signalisation horizontale, c'est vrai que c'est un sujet important, difficile, parce que, je dirais, il y a un coût important et il y a aussi des évolutions de trafic très très fortes qui ont augmenté l'usure. Ceci dit, je reviens sur les possibilités qui vont venir avec le véhicule autonome. Le véhicule autonome, est-ce qu'il va demander davantage de signalisation ou bien est-ce qu'il va pouvoir se passer en partie de signalisation? C'est vraiment une des questions fortes qu'il y aura.
Véhicule autonome. Alors oui, revêtement, route intelligente, on l'abordait furtivement avec vous, on va y revenir, Emmanuel Barbe, justement. Je voudrais qu'on prenne l'exemple du groupe industriel nantais Lacroix, qui était venu dans le défi ETI, eh bien, c'était cet hiver ou ce printemps, c'était sur un business, bien sûr. Lacroix qui conçoit des cartes électroniques, des appareils de télégestion et des panneaux de signalisation, des briques technologiques quelque part pour la détection des vélos, des piétons, des animaux. Vincent Bédouin, c'est le président du directorat de la Croix. Voilà ce qu'il nous disait à l'époque dans ce défi ETI. On l'écoute et on revient tout de suite après.
Le futur, c'est une signalisation qui va être connectée, qui va pouvoir changer de vitesse, s'adapter au trafic, à la météo. On rentre dans ce monde connecté, dans tous les domaines. La voirie en est un, évidemment. On est dans cette vague d'Internet des objets qui vient se glisser un peu partout avec des capteurs, de la communication. Et puis tout ça commence à s'interopérer, à communiquer. Donc bah, les capteurs, il y a l'éclairage bien sûr qui s'alimente, mais qui les radars pédagogiques ou tout ce qui capte de l'information transmet et permet d'utiliser. Alors l'exemple en sortie d'une école, c'est les capteurs de piétons qui vont faire éclairer, qui vont envoyer un système de flash pour prévenir la voiture. En attendant que la communication arrive directement dans
la voiture, sur le tableau de bord.
Bien sûr. Ouais.
Génial, hein. C'était début mars, Vincent Lacroix, donc, Vincent Bédouin, donc, à la tête de Lacroix. Il a même mené des expérimentations en Savoie sur la détection par capteur du passage des animaux sauvages, des sangliers, par exemple, en lien avec les organisations de chasseurs. Il y a des voyants qui apparaissent. Le nombre d'accidents a été divisé par 7. C'est la voie à suivre? Tiens, Emmanuel Barbe.
Oui, certainement. Il y a beaucoup de choses avec la technologie. J'ai vu aussi des panneaux très intelligents. Donc, il y a beaucoup de pistes autour de cela. Et quand vous voyez aussi ce que font des équipementiers en termes d'éclairage, où vous pouvez être tout le temps en plein phare et vous aveuglez pas ceux qui croisent, vous avez des systèmes qui transmettent de l'information au véhicule pour peu qu'il soit capable de le lire. On peut imaginer, prenez le drame de Puy-Seguin, ce car qui a brûlé, avec des systèmes de détection, cet accident n'arrivait pas. Donc,
C'était le car avec les personnes âgées.
C'est ça, mais vous voyez qu'il est arrivé dans un virage, le choc n'était pas très important, puis il y a eu un incendie, on ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, ici, si le car avait été informé de la présence du camion, eh bien, il aurait freiné et ça ne serait pas produit. Donc, on voit bien qu'il y a derrière ça beaucoup de ressources. Maintenant, il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions, il y aura toujours beaucoup de choses non connectées, d'usagers de la route peu connectés, les piétons, les cyclistes, les motos, même si ça commence à venir. Et donc, c'est encore un long chemin, mais il y a beaucoup, beaucoup à attendre de ça, bien évidemment.
Ce qui fait d'ailleurs la Croix, c'est génial, parce qu'il permet justement, avec des briques technologiques, de permettre la détection des vélos, des piétons, etc. François Roudier, porte-parole du CCFA.
Oui, mais on est entré, nous, constructeurs automobiles, dans une deuxième phase de la sécurité. On a mis en place depuis des années ce qu'on appelait la sécurité passive. C'est simple, c'est votre ceinture, l'airbag, le sac gonflable, pour respecter la terminologie. Et on arrive maintenant à ce qu'on appelle la sécurité active. C'est-à-dire que la sécurité active, c'est l'automobile qui va vous aider à mieux conduire. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'aviation en particulier, qui a un coût certain. C'est pour ça qu'il arrive un peu plus tard dans l'automobile. Mais lorsque vous regardez ce qui est en train actuellement d'être vendu, je dis même pas des choses dont on rêve, on a des véhicules qui sont capables de détecter le véhicule qui est devant vous, qui freine très bien, bien mieux que vous. Moi, j'ai fait un long trajet par deux fois. Le système a été bien meilleur que François Roudier. Donc, on voit que...
Qui est déjà excellent comme garçon.
Qui est un grand routard, comme on dit. Et en plus, ce système vous permet de rester dans la voie, donc vous débordez pas, ce qui peut être très souvent un gros problème avec les motards. Les accidents de motards sont souvent des problèmes de changement de voie non signalés. Donc, vous voyez, on est dans un moment déjà qui est extrêmement avancé et on arrive vers le connecté, alors avec le lien avec l'infrastructure. Il faut pas se leurrer, de mauvaises voitures et de mauvaises routes, on n'y arrivera jamais. Il faut que les deux aillent ensemble.
Et à propos des infrastructures, c'était Pascal Thébibel, l'un des dirigeants de Colas, qui était venu nous en parler ici même au moment du Salon des maires avec son innovation Flowell. C'est une route qui génère de la lumière, de la signalisation au sol, avec des passages piétons fluo, des bandes lumineuses, en fonction du trafic, en fonction des horaires de la journée. Des voies peuvent se rétrécir, peuvent apparaître des passages piétons, des emplacements pour stationner. Vous, les assurances, comment est-ce que vous travaillez sur ce dossier? Stéphane Penet, directeur assurance dommages à la FFA.
Et évidemment, les assureurs sont très concernés par les questions de sécurité routière, puisqu'ils ils en sont à la fois un observateur privilégié à travers les sinistres qu'ils règlent, et bien c'est directement lié à l'économie de leur business. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que évidemment que les technologies vont apporter énormément dans la sécurité, et ça c'est sûr. Il y a quand même quelques limites et quelques risques supplémentaires. Je rappelle quelques chiffres. Les assureurs dépensent en gros 20 milliards d'euros tous les ans. dans l'indemnisation des accidents de la route.
20 milliards d'euros tous les
ans. Et il faut savoir que 98% des sinistres, c'est 7,5 millions de sinistres par an, sont des sinistres matériels, c'est-à-dire des sinistres où il y a de la tôle froissée, etc. C'est une partie importante du coût de la sécurité, finalement. C'est vrai que ce qu'il y a de plus dramatique, c'est les morts et les blessés, mais si on parle d'un point de vue économique, il y a aussi cet aspect-là des choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, il y aura peut-être moins d'accidents avec ça, mais il faut voir le coût que ça représente. Aujourd'hui, réparer par exemple un train avant d'un véhicule, dès lors qu'il y a des capteurs, dès lors qu'il y a des caméras à calibrer, etc., ça peut augmenter de 30 à 40% le coût de la réparation en elle-même. Donc on a cet aspect-là qu'il faut bien avoir en tête dès lors qu'on raisonne d'un point de vue strictement économique. Je me mets donc dans le titre de votre émission, Les décodeurs de l'écho.
Exactement. Abdelkrim Doufen, responsable du programme Transport Autonome chez IRT Système X.
Oui, moi je reviens aux statistiques en fait par rapport aux accidents finalement. L'une des causes, c'est effectivement le comportement des conducteurs. Et c'est pour ça finalement on propose, ou les constructeurs proposent, des systèmes d'aide à la conduite pour commencer. Et là, de plus en plus, avec la technologie, la maturité des différentes technologies de perception, les caméras, les lidars, les radars, etc., on arrive finalement à comprendre l'environnement d'une manière plus intéressante. Et ça permet finalement de proposer des systèmes de décision embarqués dans les véhicules qui peuvent aider ou éviter des accidents qui peuvent survenir à cause d'un comportement inattendu. Mais toute information complémentaire qui vient des panneaux de signalisation, de la signalisation horizontale, etc., est importante. Donc finalement, pour prendre une bonne décision, disons d'une manière automatique, il faut qu'il y ait des informations correctes qui représentent l'environnement qui est autour du véhicule.
Ouais, et c'est vrai que cette route, hein, cet environnement qu'on côtoie donc tout au long de l'année, hein, quand on prend son véhicule, quand on construit, tiens Georges Tempès, expliquez-moi, quand on construit un rond-point ou un feu rouge, une collectivité quelconque, hein, bon, il va falloir faire une évaluation socio-économique parce que c'est un investissement qui va bénéficier d'un financement public. Comment se fait l'arbitrage ? Parce qu'un rond-point, ce sont des accidents en moins, donc des vies épargnées, mais aussi évidemment des coûts d'aménagement et de construction, bien sûr, hein, voire de la pollution en plus, parce que les poids lourds vont ralentir. Comment est-ce qu'on prend en compte tous ces paramètres ? Comment est-ce qu'on intègre le prix de la vie, quelque part ? Est-ce que dans un contexte de contraintes budgétaires, on n'est pas obligé de faire un calcul que certains vont trouver de toute façon un petit peu cynique, hein ?
Bon, je veux dire que même indépendamment du contexte budgétaire, ça fait déjà des décennies que toutes les infrastructures routières, les décisions qui sont prises de construction, d'aménagement, d'extension, sont prises à l'aune de calculs socio-économiques qui prennent en compte le coût des aménagements eux-mêmes et bien sûr aussi le gain de temps, le cas échéant bien sûr les réductions de morts. Il y a un prix du mort qui existe en termes de socio-économie. On l'intègre.
Je dirais comment on le calcule.
Bien sûr, tout ça est pris en compte. Et il y a aussi quelque chose qui est important, qui est pris en compte, et là, je pense notamment aux collectivités, c'est aussi la demande citoyenne. Oui. Et celle-là, la chiffrer n'est pas aussi évident que ça. Et la satisfaction du citoyen, c'est quelque chose qui est très important, et pas uniquement pour un élu, pour être réélu, hein, c'est aussi important dans le bien-être collectif, et je pense que c'est aussi une dimension importante.
Ouais, d'ailleurs, tiens, est-ce que les élus sont toujours bien formés aux questions de sécurité routière, parce que parfois, ils pourraient être jugés responsables en cas d'accident aussi. Hein,
voilà. C'est aussi un enjeu important pour les élus. Je pense que beaucoup d'élus l'ont compris, certains l'ont déjà touché du doigt, malheureusement pour eux, et je pense que c'est aussi quelque chose qui pousse dans les décisions. Le sujet de la sécurité routière, c'est un sujet sur lequel tout le monde a un avis, et je pense que essayer de rationaliser les choses, de les amener à des considérations qui peuvent être partagées et objectives, c'est toujours, j'irais, gagnant dans les discussions.
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.
En parlant de ce type d'étude, il en existe une pour le passage à 80 km/h que nous avons produite devant le Conseil d'État pour faire adopter le décret. C'est une étude du commissaire général au développement durable qui a étudié le bilan socio-économique des différentes abaissement de vitesse envisageable et qui a retenu que le 80 était un calcul, une décision qui avait un bénéfice économique pour la société en prenant en compte le coût du mort, hein, la valeur tutélaire, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est en fait un arrêté, je crois, du ministère des Transports, et conclut que le passage à 80 km/h est une mesure bénéfique pour l'économie. C'est-à-dire que pour la sécurité routière, c'était important vis-à-vis du Conseil d'État, mais nous, on cherche plutôt à calculer combien de vies on va épargner, mais et combien de décès graves. Mais tout ça pour vous dire que...
Combien, plus simplement rappeler le chiffre.
Alors, on sera entre 3 et 400 morts, et donc c'est
3 considérable. 400 morts sur 3448 en 2017.
Voilà, et c'est 10%, et c'est surtout que ça s'additionne, donc d'une année à la fin, dans 3 ans, à la fin de la législature, on aura épargné quelque chose comme 1200 morts.
Combien ça coûte une vie, Stéphane Penney, vous de la Fédération française des assurances, une question un peu bizarre je pose, mais évidemment vous la posez. Les autorités publiques se la posent aussi. La preuve, ce que vient de dire Emmanuel Barbe.
Je crois que dans ces situations-là, on ne peut pas parler de statistiques moyennes, parce que ça n'aurait aucun sens. C'est vrai que les assureurs indemnisent des blessés et des décès. Ce que l'on fait, c'est de la réparation intégrale, c'est-à-dire qu'en réalité, tout dépend de la situation de la personne. Est-ce que c'est une personne qui avait des enfants à charge? Est-ce que c'était une personne qui était jeune? Est-ce que c'était une personne qui avait un niveau de vie élevé ou pas? Donc nous sommes là pour nous ni enrichir ni appauvrir, mais réparer, en tout cas essayer de réparer. En réalité, c'est de la compensation que nous faisons, bien entendu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un accident corporel, mais ça va de 1000 euros à 7 millions, d'accord. 7 millions, c'est un des plus gros sinistres corporels qu'on ait eu.
7 millions, ça correspond à quoi, par exemple?
7 millions, ça correspond à quelqu'un qui est devenu tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours, qui avait 30 ou 40 ans, une très belle carrière, 4 enfants à charge, et qui, bien entendu, va laisser une situation économique compliquée. Donc ça va. Et en moyenne, un accident corporel coûte 75 000 euros. Mais cette moyenne ne veut rien dire, en réalité, encore une fois, parce que il y a des extrêmes importants.
Tout juste, Emmanuel Barbe, vous, la délégation interministérielle à la sécurité routière, vous aviez estimé le coût pour la puissance publique, la collectivité des accidents de la route, à 40 milliards d'argent public, c'est-à-dire 2% du PIB. Alors, je ne sais pas, c'est toujours l'impression qu'on parfois on additionne des choux, des carottes, je ne sais pas, mais comment on en arrive à une telle somme?
En fait, il faut bien comprendre que le risque dans nos sociétés est très largement assumé par la communauté. Alors, il y a le risque routier qui est un risque très important, mais il y en a d'autres. Le risque du sport extrême, le risque de toute activité humaine qui entraîne des traumatismes. Ce qui fait que, évidemment, les assurances indemnisent le préjudice subi par une personne, mais par exemple, le professeur Longeron qui dirige le Trauma Center de la Pitié-Salpêtrière m'expliquait, parce qu'on travaille beaucoup avec lui, qu'un accident de la route, un blessé grave, dans une journée, il peut y avoir jusqu'à 55 personnes qui s'occupent de lui. Donc, je vous laisse imaginer les coûts, notamment médicaux, qu'il y a. Il y a ensuite tous les coûts d'aménagement, etc. Donc, une partie est prise en charge par l'assurance, mais pas toutes, loin s'en faut. Et donc, ces coûts-là, c'est quand on les met bout à bout, on fait aussi des calculs avec... Prenez un jeune homme qui est tout juste formé. Il représente un coût pour la société parce que ses études ont été payées à un médecin, n'importe qui d'ailleurs, et ça coûte très cher. Donc c'est comme ça qu'on fait ces calculs. Alors c'est un coût, c'est une dépense qui engendre d'autres richesses. Vous avez des sociétés qui fabriquent des fauteuils roulants. Donc en fait, faut bien comprendre que c'est juste que c'est une dépense qu'on aurait pu affecter à autre chose. Et puis pour nous, évidemment, c'est de la souffrance, hein, parce que c'est vraiment le cœur de l'action du gouvernement dans ce domaine.
Stéphane Penney.
Oui, juste pour avoir une idée de comparaison. La route coûte 20 milliards aux assureurs. Les incendies coûtent entre 5 et 6 milliards tous les ans. Les catastrophes naturelles coûtent 2 milliards tous les ans. Voilà, c'est pour avoir une idée de ce que représente aujourd'hui le coût de la route.
Les catastrophes naturelles, c'est 10 fois moins que les accidents de la route. Les incendies, c'est à peu près 4 à 5 fois moins que les accidents de la route.
Non, exactement.
C'est bien de rappeler tout ça. Les voitures du futur. Les voitures du futur, on en a parlé, bien entendu. François Roudier, donc, amélioration aussi des véhicules, voitures sûres ou pas. Il y a évidemment des manières de conduire plus ou moins dangereuses. On va pas refaire la liste des airbags, des ABS, des limiteurs de vitesse, etc. Bon, très bien. La voiture autonome, c'est l'arme anti-accident ou pas?
Alors sûrement, mais la voiture autonome, elle n'arrive pas tout de suite.
Eh non.
Hein, il faut aussi, c'est très bien de rêver à Star Trek, mais enfin,
c'est Anne-Marie Drac qui a été nommée haute responsable pour la stratégie nationale du développement des véhicules autonomes.
On a un vrai plan en France, et effectivement, la partie.
Elle disait, 2020-2022, c'est l'ambition pour faire circuler sur les routes françaises des véhicules qui ne nécessiteront pas en permanence un contrôle humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de contrôle humain. C'est-à-dire qu'il y aura un contrôle humain plus ou moins large, évidemment, bien entendu, phase de test, hein, ce qu'on appelle les véhicules 3 et 4. L'extrême, ce sera le 5, évidemment, ça sera... voilà. Bon, on est prêt ou pas?
Oui, techniquement, on est quasiment prêt. On est quasiment prêt. J'ai quasiment prêt parce qu'effectivement, pour l'instant, ce qui peut bloquer sont les échanges de données. Hein, le paquet de données qui est transmis nécessite en particulier la 5G. Et là, on est encore un petit peu court. Ce qui veut dire qu'aussi l'infrastructure sera très importante parce qu'elle permettra peut-être de pallier la 5G si on est au fin fond de la Creuse. Ça, on avance de pair avec les gens des infrastructures. La voiture, plus elle est connectée, plus elle va devenir sûre. Et c'est une demande de nos clients. Hein, le citoyen français, lorsqu'il est client d'automobile, son troisième critère de choix, c'est la sécurité. Et on le voit même d'une
derrière
manière...
Derrière l'esthétisme et le prix.
Derrière l'esthétisme, le prix, voilà, c'est ça. On arrive déjà sur ça en critère avoué. Et lorsqu'on regarde vraiment ce qu'achètent les Français, on est maintenant à plus de 36% du marché français qui est concerné par ce qu'on appelle des SUV. Et un des critères de choix du SUV, c'est la notion de sécurité. On est plus haut, on est mieux protégé.
On est plus fort.
Les enfants sont plus protégés à l'arrière. Hein. C'est vraiment un critère féminin d'achat. Donc on voit que, on sait qu'on aura une acceptation des systèmes qui permettent de pallier nos déficiences.
Alors, Abdelkrim Doufen de System X et Georges Tempaz.
Oui, en effet, je suis totalement d'accord. La voiture qui roule toute seule partout, ça sera pas pour demain. Sauf que je pense qu'il y aura un déploiement progressif. Et le déploiement progressif, finalement, va dépendre à la fois des fonctions embarquées dans le véhicule, mais aussi dans l'environnement dans lequel le véhicule va circuler. Et c'est là que, finalement, l'infrastructure est importante. Parce que, actuellement, aujourd'hui, des voitures qu'on peut laisser dans un parking aller se garer toutes seules, ça peut marcher. Parce qu'on est dans un environnement sécurisé, etc.
Valéo le fait très, très bien. Il est déjà venu nous en parler. Donc,
exactement.
Monsieur Innovation, monsieur Duvauchel.
Voilà. Et des voitures qui roulent sur autoroute. Donc, il y a des systèmes autopilot, par exemple, qui aident le conducteur dans des situations. Voilà. Ça existe aussi. Par contre, la qualité de la décision dépend de l'information qu'on perçoit. Et c'est là que l'infrastructure, finalement, est importante. Si on n'a pas une signalisation horizontale de qualité, ça peut nuire au bon fonctionnement du véhicule.
La voiture, voilà. Elle peut être perdue.
Exactement. Donc, il faut repenser ou plutôt réfléchir, intégrer la partie infrastructure dans la conception du système. Et là, je pense aussi que ça a un lien avec la partie assurance.
Oui.
Parce que si on assure une voiture, l'autopilot 10 ans, et que finalement, le conducteur l'a utilisé dans une situation où il n'y a pas les éléments nécessaires pour un bon fonctionnement, voilà, qui est le fautif.
Ouais, Georges Tempaz, directeur du CEREMA.
Oui, je voulais juste revenir en effet sur ce sujet véhicule infrastructure, parce qu'en effet les deux avanceront de pair, comme vous le disiez, monsieur. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire avancer l'ensemble. Le point décisif qu'il y a avec l'infrastructure, il y a en effet le transfert de données. On voit bien que les infrastructures vont pouvoir servir de relais intermédiaire et apporter des choses. Et ce qui est important, et Emmanuel Barbe le rappelait en parlant de la malheureuse accident de l'autobus, c'est que c'est sans doute via l'infrastructure qu'on permettra au véhicule de voir plus loin que ce que le véhicule est capable de voir ou que ce que la caméra est capable de voir. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, les caméras, aussi puissantes soient-elles sur les véhicules, voient moins bien qu'un œil humain. Il y a une certaine myopie qui existe de ces... Donc on est obligé de travailler avec l'infrastructure pour bien s'assurer de la bonne lisibilité, mais aussi la bonne lecture de ce qui est fait, mais aussi l'infrastructure va avoir un rôle décisif à jouer dans le transfert d'informations. Et bien évidemment, il y a l'information véhicule à véhicule qui viendra, je dirais, aussi améliorer ça, et peut-être à terme compenser, et peut-être voir, je dirais, pallier complètement le besoin d'informations via l'infrastructure. Mais là, je pense que ce sera vraiment des énormes débits, et ça nécessitera surtout d'avoir des flottes complètement uniformes et équipées, ce qui ne va pas non plus être le cas. Il y a toute la période de coexistence qui est aussi à gérer, qui est très importante.
Ça va être long, hein, c'est François Roulier.
C'est lorsqu'on sera à côté de la 309 GRD avec une voiture connectée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Emmanuel Barbe.
Moi, d'abord, il faudrait que les caméras arrivent à voir derrière les buissons, et là, on n'y est pas encore. Et c'est vrai que dans le cas de Puisseguin, c'était un virage. C'est pour ça que moi, je crois, en fait, plus, mais c'est une opinion personnelle qui n'a pas beaucoup d'importance, à la connexion entre les véhicules. Parce que, en fait, on voit bien que les infrastructures, c'est quand même extrêmement long, extrêmement coûteux. On a 1 million de kilomètres de route en France, hein, c'est énorme comme réseau. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est par la connexion que ça ira beaucoup plus vite. On voit même chez les motards, hein, il y a des engagements au niveau de l'IRSEM, c'est une association européenne des fabricants de motos, à avoir au moins un modèle qui soit connectable. Et pour un motard, par exemple, le fait que sa présence soit signalée à un automobiliste. C'est très intéressant. On peut aussi utiliser les réseaux, les GPS. Actuellement, il y a de plus en plus de réseaux spécifiques. Nous avons récompensé à Sécurité Routière un système qui permet aux tracteurs de se signaler et ce signal est transmis à d'autres GPS généralistes. Voyez, donc ça aussi, c'est des solutions qui pourraient aller assez vite, en fait. Et pour lequel je pense qu'il y a, vraiment des perspectives très intéressantes.
Est-ce que, au-delà de la guerre économique, le véhicule autonome représente, au-delà du confort des services apportés, c'est vrai que c'est un enjeu de sécurité, Stéphane Penet, est-ce qu'on a quantifié le nombre d'accidents potentiellement en moins quand ce véhicule autonome sera réalité sur les routes de France, qui n'est pas encore le cas, nous le disait il y a un instant François Roudier du CCFA.
On n'a pas encore quantifié ça, certains silences ou ces risques, c'est encore un peu tôt. Nous, ce que nous veillons, c'est à ce que l'assurance continue de fonctionner correctement dans un cadre de véhicule où, soudainement, ça peut être la machine qui est en contrôle du véhicule et non plus le conducteur, avec les problèmes de responsabilité que ça peut poser. Ça, c'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup, parce qu'effectivement, c'est avec une assurance qui fonctionnera que ces technologies pourront avancer.
Avec le législateur aussi, puisque nécessairement la loi va être changée, bien sûr.
Mais je voudrais quand même signaler une chose. Il y a des risques collatéraux à ces technologies. Et il faut pas les ignorer. Je pense notamment d'abord que la cohabitation entre des véhicules à délégation et des véhicules normaux, je dirais, et je pense notamment aux deux roues, est quelque chose qu'il faudra surveiller de très près, parce que c'est effectivement il va y avoir une phase où il va y avoir de la cohabitation et elle sera longue cette phase, donc il faut véritablement qu'on regarde ça. Et d'autre part, il faut qu'on regarde aussi ce que l'on appelle le comportement des personnes face à ces technologies. Et là, on a des vraies interrogations, et je crois que les constructeurs les ont aussi et sont très attentifs à ça. C'est le sentiment que la technologie va pouvoir tout faire et que mon comportement n'a plus rien à voir. Il faut veiller à cela.
Un mot, François Roudier, et puis on revient juste après. C'est passionnant tout ce que vous nous expliquez. Allez-y, un mot, François.
Oui, alors on peut faire une analogie avec ce qui s'est passé en aviation. Hein, lorsqu'on est passé sur le pilotage automatique. Il y a eu beaucoup moins d'accidents, mais il y a encore des accidents. Très souvent, c'est le facteur humain. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait on prendra un cockpit automatique et on vendra des chiens. Le chien mord le pilote s'il touche à quoi que ce soit. Voilà. Donc on est aussi dans un système où bah, l'humain reste l'humain. Donc le facteur humain dans les accidents, même avec des voitures hyper technologiques, extra encore.
Bon, on revient dans un instant. Donc, est-ce que l'innovation doit accélérer pour assurer davantage de sécurité sur les routes au-delà du 80 km/h, etc., etc. On revient vite avec les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, on parle ce soir sécurité routière, on parle innovation, on parle économie, bien sûr, on est sur BFM Business, vous savez, l'actualité, bien sûr. C'est dimanche, le 1er juillet, la mise en service, donc, eh bien, sur 400 000 km de route sans terre-plein central, droite, hein, évidemment, donc celle à double sens, hein, du fameux 80 km/h. Contesté par certains. Vous nous avez dit, tiens, Emmanuel Barre, vous représentez le gouvernement, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière, hein. Vous avez évalué, vous avez calculé le coût du mort, bon, voilà, vous avez estimé que ça pourrait aussi épargner 300 à 400 vies, donc sur les 3448 morts de 2017. Au-delà du fait de se demander si la mesure sera efficace, si elle est opportune, si elle est populaire, etc., il y a des conséquences économiques peut-être moins connues, le fait qu'on roule moins vite. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce que c'est bon pour le réseau routier qu'on va peut-être moins usé? Non, je sais pas, dites-moi.
Sur le réseau routier, moi, je laisserai la parole aux personnes compétentes.
Georges Tambès, oui.
En tout cas, quand on a fait nos évaluations et nos études d'impact, on a ressorti des études de l'ADEME qui dit qu'on devrait économiser. Et si je me réfère aux essais très nombreux qui ont été faits par les journalistes, certains roulaient à 90 et d'autres à 80, ceux qui roulaient à 80 ont sensiblement consommer moins, et à mon avis, il y a une raison assez simple, c'est qu'on est moins tenté de doubler, parce qu'à 80, c'est doubler à 90 un camion qui roule à 80, ça prend un kilomètre, hein, donc dès qu'on double, on est en excès de vitesse. Mais si on est à 80 km/h, normalement, on peut plus du tout doubler si on respecte les limitations de vitesse, et donc c'est les moments de forte consommation, c'est ces accélérations-là. Donc moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'on devrait économiser du carburant. Après, beaucoup de gens expliquent qu'on pourrait plus passer la 5e, la 6e, beaucoup trop sophistiqué. sophistiqué que moi. Intuitivement, j'ai le sentiment qu'on devrait économiser de l'essence.
Vous êtes délégué interministériel, oui. Oui, alors Georges Tempête, directeur du CEREMA, ça va user moins les routes ?
Non, objectivement, je pense que cette mesure va avoir beaucoup d'avantages, mais pas celui-là. Je pense que l'usure des routes pour le 80 km/h, non.
C'est la FNTR, les transporteurs routiers, qui disent, voilà, attention, pour le transport de matières dangereuses, les camions-citernes, la réglementation les oblige à rouler 20 km/h sous la vitesse maximale autorisée. Donc, pour eux, ça serait 60 km/h. Ils disent, voilà, les moteurs des poids lourds tourneront sous leur rendement optimum. Et ça va donc entraîner une surconsommation de gasoil. Là aussi,
en fait, tout dépend des intérêts que l'on met en balance. Ouais. Ils sont quand même extrêmement peu et ils roulent extrêmement peu de kilomètres. Mmh. Donc je suis navré. Et puis je pense qu'ils auront la possibilité de le refacturer au pire. Donc voilà. Puis il me semble que c'est un argument quand même. Excusez-moi, dans la masse des arguments qui n'a pas véritablement pertinent. Enfin, qui ne me soucie pas. Voilà.
La gestion de la sécurité routière. Est-ce qu'on sait bien en France prendre en compte l'ensemble des accidents avec une sorte de elle est de vision macro, quelque part, un petit peu comme si on étudiait une épidémie, par exemple, quand on compare avec d'autres grands risques, ceux liés au tabac, à l'alcool, etc. Est-ce qu'il y a une approche particulière liée aux accidents? C'est quoi le rôle de la prévention, la menace de la répression dans tout ça? Stéphane Penet, directeur assurance, dommages, responsabilité à la Fédération française des assurances.
Les assureurs sont très impliqués dans la prévention. En réalité, nous nous sommes engagés, d'ailleurs, vis-à-vis des pouvoirs publics, à investir 0,5% de nos primes d'assurance obligatoire dans des actions de prévention tous les ans. Ça représente quand même une somme de 40 millions d'euros par an. Et nous sommes à ce titre-là, je pense, un des grands acteurs de la prévention et de la lutte contre l'insécurité routière. Il va de soi qu'il y a des populations que nous privilégions dans ces axes-là. Nous travaillons beaucoup d'ailleurs avec Monsieur Barbe pour fixer ensemble des priorités communes. Ce qui préoccupe les assureurs, d'un point de vue strictement de leur métier, c'est les comportements qui sont très atypiques. Je prends un exemple, les jeunes conducteurs, effectivement, quand on a moins de 2 ans de permis, on a 3-4 fois plus d'accidents que la moyenne. C'est mathématique aujourd'hui. Et donc, ce que nous travaillons beaucoup, c'est la question de la culture, de l'éducation des jeunes. Déjà quand ils ont un scooter, parce que c'est là qu'ils commencent à prendre les mauvaises habitudes, vis-à-vis de leurs parents, parce qu'on sait que c'est les parents qui donnent les mauvais comportements et les mauvais exemples à leurs enfants. Donc ça, c'est des sujets que nous travaillons beaucoup pour corriger effectivement ces situations atypiques.
Mais vous qui indemnisez toutes sortes de sinistres, hein, donc évidemment vous travaillez sur la notion de risque, vous expliquez tout à l'heure, par exemple, on va rappeler, hein, pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques minutes, les 20 milliards que ça coûte aux assurances, la violence, les accidents routiers, les accidents de la route, hein, versus 2 milliards pour les catastrophes naturelles, donc 10 fois moins, et les incendies, 4 à 5 milliards, c'est-à-dire 4 à 5 fois moins. C'est un risque à part quand même, le risque accident de la route quand même.
C'est un risque de masse. Il y a 45 millions de véhicules, qui roulent en France. Et c'est vrai que dans tous les pays, le fait qu'il y ait autant de véhicules, et il y en a de plus en plus dans un certain nombre de pays, le fait que l'on confie à des personnes, je dirais, un risque dont ils n'ont pas toujours conscience, et ça c'est très important, c'est-à-dire que le véhicule est bien sûr un symbole de liberté, est un symbole de transport, etc. Mais c'est vrai que les législateurs ont toujours veillé à ce que les gens soient protégés, parce que c'est véritablement le risque par excellence sur lequel la responsabilité des conducteurs peut être mise en cause de manière grave, parce qu'un accident de la route, et a fortiori un accident de deux roues, c'est quelque chose qui fait des blessés, peut faire des morts, et qui engage donc une responsabilité très très forte des conducteurs dont ils n'ont pas parfois conscience.
Des accidents aussi qui ont un coût pour les entreprises. On estime à 6 millions de journées perdues pour les entreprises dans des accidents routiers liés au travail. Vous, au gouvernement, la délégation interministérielle, Emmanuel Barbe, vous travaillez avec environ 1 million d'entreprises qui sont impliquées dans la lutte contre l'insécurité routière. Et vous avez réussi à faire baisser, vous et avec ces entreprises, à faire baisser le nombre d'accidents de presque 10%. Sur quels axes vous travaillez avec ces entreprises ?
Les chiffres sont un tout petit peu différents et j'adorerais que ce soit les vôtres, mais les miens sont moins bien. En fait, on a monté une initiative avec des entreprises il y a 2 ans, des chefs d'entreprise qui s'engagent à travers des engagements de sécurité routière. Et on en avait 21 au début, mais des très grosses boîtes, hein, qui étaient très exemplaires. Et puis aujourd'hui, on est à 960 entreprises et elles représentent près de 3 millions de salariés.
Mais, ah pardon, j'ai dit 1 million de boîtes.
C'est pour ça que je rêvais de vos chiffres. C'est pour ça.
1000 entreprises et qui représentent 3 millions de salariés. Voilà,
c'est très intéressant.
Un peu croiser les skis. Hein. Voilà.
Ce qui est très intéressant dans, le, dans, dans l'entreprise, c'est qu'elle a, par rapport à ça, une démarche qui est parfaitement rationnelle. L'accident de la route, même matériel, est très coûteux. Je vais faire le savant que je ne suis pas, mais ça crée des externalités négatives très très fortes. Parce que quand un véhicule est accidenté, si vous vous en servez pour livrer de la marchandise, bah, vous ne la livrez plus. Si le salarié, il connaît une partie de votre clientèle et qu'il a un accident, qu'il reste accidenté, ben, vous pouvez plus travailler. Et donc, les entreprises sont souvent investies aussi parce que les assureurs leur rappellent, en montant les primes, le coût de ce risque. Voilà. Et du coup, les entreprises sont très engagées là-dedans. Et c'est formidable. Pourquoi ? Parce que d'abord, les salariés sont gagnants. C'est eux qui meurent sur les routes. Les entreprises aussi, parce qu'elles font des économies. Investir dans la prévention routière, c'est un rendement de 1 pour 1,80. À peu près 1,60 à 1,80. Donc, c'est un très bon investissement. Ça demande à être refait régulièrement.
Et on travaille sur quels axes, par exemple ?
Alors, on va travailler le premier, par exemple, dans une entreprise, faut-il prendre la route ? On travaille vraiment au niveau de la racine de la pyramide de Bird, de la prévention. Et donc, est-ce que c'est utile de prendre la route ? Ouais. Ensuite, s'il faut prendre la route, est-ce que le véhicule est en bon état ? Est-ce que ce trajet est véritablement nécessaire ? Est-ce que je peux pas l'optimiser ? C'est un travail remarquable. Et le troisième point où c'est gagnant, c'est pour la société, parce qu'une entreprise, elle utilise l'internet, c'est la route, d'accord ? Elle n'a pas un intranet, elle n'a pas une route privée, et donc du coup, elle va croiser des tas d'autres gens qui soit travaillent, soit ne travaillent pas. Et en sécurité routière, le fait qu'une société se serve du contrat de travail pour imposer plus de prudence, ben c'est essentiel. Alors, on a doublé ça d'une loi parce qu'on est prudent, et c'est une loi qui oblige les personnes morales, les entreprises, à désigner le conducteur flashé. Alors, c'était très impopulaire. Et finalement, elle a donné des résultats exceptionnels, puisqu'on a aujourd'hui 80% des entreprises qui désignent leurs risques, pour elles se sont organisées autour de ce risque. Et deuxièmement, on a fait baisser les infractions, donc soit les excès de vitesse, soit les franchissements de feu, où ces voitures étaient extrêmement répétitives dans ces infractions, de 10%, alors que chez les particuliers, ça a monté de 1%. Donc l'entreprise est vraiment un lieu formidable d'effet de levier pour la sécurité routière, et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis, les 980 entreprises, parmi les fleurons de l'entreprise française. Voilà. Donc je compte sur les autres qui nous écoutent aujourd'hui.
François Roudier, les constructeurs d'automobiles en France, hein, le CCFA.
Mais les entreprises seront les premières à avoir les véhicules les plus connectés, les plus sûrs, les plus autonomes, puisque c'est une obligation, comme l'a dit Emmanuel Barbe, pour vraiment protéger à la fois ses salariés et son business. Donc, les véhicules de vente en entreprise représentent à peu près 40% du marché en France, c'est à peu près la même chose dans tous les pays d'Europe. Donc, on risque d'avoir une introduction très très rapide, grâce aux entreprises de véhicules qui auront des normes de sécurité avancées par rapport à ceux des particuliers.
Elles seront précurseurs. Stéphane Penet.
Oui, les technologies, juste un avantage important en matière de prévention. À partir du moment où les véhicules sont connectés, à partir du moment où on peut cibler les messages vis-à-vis des conducteurs, on pourra faire de la prévention ciblée. Bien. Et ça, c'est très efficace. Bien. C'est-à-dire qu'une prévention massive, c'est vrai que c'est aussi efficace, oui. Mais une prévention ciblée sur une personne dont on sait qu'elle a tel et tel défaut, voilà. C'est beaucoup moins dilué, c'est beaucoup plus efficace, et ça, c'est un énorme progrès.
Abdelkrim Doufen, ingénieur donc chez IRT Systemix.
Moi, je rebondis à ce qu'on disait de parler de la sécurité, finalement. Je pense que j'aime bien l'approche, disons, française, européenne. Moi, je connais bien le système américain, la façon
vous avez, avec laquelle... On va juste le rappeler, aux États-Unis, vous avez travaillé, enseigné au MIT aussi. Hein,
Donc l'approche est différente, et actuellement, il y a un appel à projet lancé par l'ADEME, où pratiquement tous les acteurs des transports autonomes, et je parle transport autonome parce qu'il y a les constructeurs automobiles, mais il y a aussi les navettistes, les opérateurs de bus, etc., qui sont intéressés, qui sont en concertation, qui discutent finalement pour définir ce référentiel de sécurité, et qui, à terme, a priori, devrait permettre aux autorités d'évaluer ou démontrer les niveaux de sécurité des systèmes de transport à déployer dans le futur.
Il nous reste quelques minutes. Oui, allez-y, Georges Tempête.
Juste un point pour rebondir, c'est vrai que ce référentiel de sécurité, il est indispensable, il va être très utile pour les infrastructures, mais aussi pour la réception des véhicules, parce qu'il faut aussi définir un nouveau référentiel pour que les véhicules soient autorisés à fonctionner et donc à lire les différents cas de figure.
Emmanuel Barbe. Ah,
je voudrais juste me permettre d'ajouter une chose. Finalement, la sécurité routière ou le respect du code de la route, vous pouvez le voir d'une autre façon. C'est un code du partage, le partage d'un espace. Et les entreprises constatent que ceux qui commettent beaucoup d'infractions, souvent, sont des salariés à problème. Et donc, vous voyez, ça peut être, c'est ça l'essentiel. La sécurité routière, c'est véritablement miscible avec l'entreprise. C'est vraiment une valeur de l'entreprise.
François Roudier, juste, on termine avec vous. Vous n'avez rien à voir avec ce dont on vient de parler. parler, vous venez de rencontrer vos homologues britanniques, donc des constructeurs d'automobiles de l'autre côté de la Manche. 2 ans après le référendum sur le Brexit, est-ce qu'ils craignent, comme le disait la semaine dernière le MEDEF britannique, la CBI, que le Brexit menace d'extinction le secteur automobile si le Royaume-Uni sortait de l'union douanière?
Ça dépasse la crainte, ça devient une certitude. Ah. Parce qu'en fait, on découvre que rien n'est réglé. Et l'accumulation des petits problèmes devient énorme. Vous avez tous les jours 1500 camions qui passent en Angleterre et qui repassent en Europe. Parce qu'ils arrivent avec des pièces de voiture, ils repartent avec des voitures. Tout le système automobile, comme beaucoup d'autres industries, est fait dans le juste à temps. Si vous perdez 1 minute, 2 minutes par véhicule, vous pourrez pas tenir le rythme de production que toute entreprise doit tenir. Donc ça veut dire que soit vous dépassez complètement les délais, soit vous faites des stocks. Un stock, on le paye.
Ça coûte cher.
Voilà. Et ça c'est déjà, je dirais, de la macro vision du Brexit. Vous avez des détails beaucoup plus sordides. C'est que lorsqu'on est à la sortie du Eurotunnel, il n'y a pas de place pour trier les camions. On les met où? On met où une gare pour arrêter les camions, les contrôler? Donc on est vraiment dans des problèmes qui apparemment commencent vraiment à troubler tout le monde.
Ils sont désespérés là un peu, là, parce que vous les avez rencontrés en direct?
Oui, assez, parce qu'on voit très bien comment les risques commencent à s'accumuler. Alors nous, les usines automobiles, on va pas d'un seul coup changer les productions, mais les productions futures commencent déjà d'être annoncées dans d'autres pays que le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni était très compétitif. Ah bon, là, on voit qu'on a un souci. Mais le Brexit s'est fait sur la politique. Hein. C'est assez triste parce que tous les ouvriers qui, dans leur syndicat, défendent à fond mes amis du CCFA britannique, c'est eux qui ont voté pour le Brexit.
Pour la sortie de l'Union européenne, bien sûr. Juste dimanche, on va être le 1er juillet, donc on va attendre avec beaucoup d'impatience à la fois les chiffres du mois de juin, des ventes d'automobiles neuves en France. Et puis, le premier semestre, bien sûr, cette moitié d'année. Vous me donnez une petite tendance, parce que si je vous demande le chiffre exact, vous allez me dire que vous ne l'avez pas. Normal, parce
non,
qu'il
c'est
reste,
vrai.
Il reste
c'est
3 jours. Il reste
c'est
3
vrai,
jours.
C'est vrai. Normalement, on pense que c'est un bon mois de juin. Les mois de juin restent de bons mois. On pense que les tendances sont assez bonnes.
Alors ça, c'est le mois de juin. Un bon premier semestre, et vous étiez déjà venu nous en parler, oui?
Pour un deuxième semestre, un peu plus incertain.
Alors, dites-moi pourquoi.
Alors, essentiellement parce qu'on change de mode de calcul des émissions, on change de système d'homologation des voitures, on passe à un nouveau système. Or, pour l'instant, on sait pas bien si on va afficher avec le nouveau système, l'ancien système, et on sait que ça peut déstabiliser les clients. Donc, pour l'instant, on reste prudent. On a quand même le Mondial de l'Auto qui arrive en septembre. Et pour vous citer, c'est BVA qui vient de le calculer. On parle 15% plus d'automobiles à partir de septembre. Donc on est dans une année...
Donc il va y avoir 3 mois un petit peu compliqués,
voilà,
juillet, août,
septembre.
Donc on
peut peut-être se décider.
De l'attentisme.
Voilà, un peu d'attentisme, mais les besoins, le parc automobile reste ancien en France. Il a vieilli encore, donc il y a encore un besoin de renouvellement.
C'est très bien. Merci à tous. Merci Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. L'homme des assurances, Stéphane Penet, directeur assurance de dommages responsabilité à la FFA, la Fédération française de l'assurance. Georges Tempèze, directeur du CEREMA, le centre d'études et d'expérimentation sur les risques. Et puis Abdelkrim Doufen, ingénieur responsable du programme transport autonome dans le laboratoire de recherche IRT Systemix. C'est fini avec les décodeurs de l'écho. On revient très très vite le mois prochain, en juillet. Donc.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.